Pays Bidikersi, Mater. Outre qu'elle organise des chantiers de formation, de reconstruction de murets ou de puits ou de lavoirs en pierre sèche, l'Association pour la promotion de l'identité des Causses du Quercy, la PIC, a organisé, depuis sa création, des ateliers d'écriture, de contes autour de légendes, de construction des puits. Cette émission présente la lecture de 3 de ces contes. Marco Bénard nous lit d'abord la présentation de ces éditions.
Depuis l'an 2000, des hommes et des femmes, soucieux de préserver et de transmettre un patrimoine populaire trop méconnu, se sont rassemblés dans l'Association pour la promotion pour l'identité des Causses du Quercy, afin d'agir sur le terrain local. Considérant que l'eau fut de tout temps la richesse naturelle la plus précieuse de nos Causses, une richesse très convoitée par nos aïeux, mais aussi partagée et gérée par tous comme un bien commun, ils ont choisi de travailler en priorité autour de la sauvegarde du petit patrimoine rural lié à l'eau. Cet ensemble de bâtis, de puits, de mares et fontaines était alors ruiné, en grand péril de disparaître et d'être oublié de la mémoire collective. Ainsi, la PIC, s'appuyant sur ses recherches historiques des us et coutumes du monde rural après avoir retrouvé des savoir-faire ancestraux de construction, a entrepris une opération programmée de restauration du petit patrimoine rural destiné dans un premier temps à la sauvegarde de puits privés sous la forme de chantiers-écoles, puis dans un second temps à la reconstruction de murets en pierre sèche lors de journées de formation ouvertes au public. Parallèlement à ces travaux de sauvegarde, la PIC propose et anime des circuits de découverte du patrimoine bâti et naturel, des soirées théâtrales à la ferme, ainsi que des ateliers d'écriture de contes et légendes autour des thèmes de l'eau des Causses, des bois et de l'arbre du pays Midi-Quercy. Eh bien, le fruit de ces ateliers, le voilà, c'est ce livre. Ainsi, Thierry Desjans présente cet ouvrage qui recueille des contes inventés dans ses ateliers d'écriture qui ont été narrés d'ailleurs parfois déjà devant un public lors de veillées et de soirées théâtrales, et cela pour la plus grande joie de tous. Ont participé à ce florilège Maurice Beau, Raphaël Beau, Thierry Desjans, Jacques Douel, Nicolas Guiraudet, Annette Morel, Michel Vaissier et d'autres. Et tous ces ateliers ont été faits sous la direction d'Evelyne Moraël-Foll.
Conte, contez, contons l'histoire du conte. Le comte Duroc avait hérité du château de la famille Duroc à la mort de son père et de ses frères, tous morts à la guerre. Trop malingre pour manier l'épée, la hache et autres objets contondants, il était resté au château avec sa mère. Sa mère était morte de chagrin peu de temps après, le laissant seul dans ce château perché sur le rocher qui domine le côté est du village de Saint-Antonin-Nobleval. Le château était bâti en rond, les fenêtres étaient étroites, mais de chacune d'elles on pouvait surveiller une partie du village. Rien ne poussait autour du château, aucune plante, aucune herbe, même mauvaise, ne sortait de terre. Le sol était nu. D'enfant malaigre, le comte était devenu un homme court sur pied, à la carrure imposante, toujours vêtu d'un costume de cuir noir. Il inspirait la crainte à tout le village, car régulièrement, on le voyait courir en rond sur la coursive du château en poussant des cris à faire se dresser les cheveux sur la tête ou jetant d'énormes pierres qui roulaient au bas de la colline jusqu'aux premières maisons du village. Il inspirait la crainte, mais ce que tout le monde ignorait, c'était son talon d'Achille. Il souffrait de migraines épouvantables qu'il combattait en se cognant la tête contre les murs de son château en espérant qu'une plus grande souffrance lui ferait mieux supporter son mal. Non loin de là coulait une source miraculeuse. On disait qu'elle guérissait de tout, tant son pouvoir était grand. Les nuits sans lune, le comte sortait de son château et allait boire à la source miraculeuse. Mais on aurait dit qu'il était maudit, car il revenait avec une migraine encore plus insupportable. Ne pouvant apaiser sa souffrance, il se vengeait en interdisant l'accès de la source à tout le village. Dès qu'un villageois ou une villageoise essayait de s'aventurer sur le sentier qui grimpait en haut de la colline, le comte accueillait le malheureux ou la malheureuse par un jet de pierre. Armide, jeune fille timide, Orpheline de père et de mère, ayant perdu ses trois sœurs pendant la dernière grande épidémie de peste aviaire, souffrait d'un mal inconnu. Tout le village était triste car Armide, malgré le mal qu'il arrangeait, portait toujours secours aux autres, avait toujours une parole réconfortante à apporter à celui ou celle qui était dans la peine. Les villageois encouragèrent la jeune fille à tenter l'ascension de la colline pour aller boire à la source. Ils lui conseillèrent de se faire passer pour la doyenne du village, en espérant que le comte n'oserait s'attaquer à une vieille personne. La jeune fille commença donc à gravir le sentier, portant les vêtements de deuil de la doyenne et traînant la jambe. Arrivée aux abords du château, son sang se glaça en entendant les hurlements du comte. Elle reçut en même temps une énorme pierre sur la tête qui la fit tournebouler jusqu'au bas de la colline. Elle eut beaucoup de mal à se remettre de sa blessure à la tête. Les villageois, toujours plus inquiets sur son état de santé, lui conseillèrent de faire une nouvelle tentative, cette fois-ci en se revêtant d'une peau de chèvre et en gravissant le sentier de nuit. Ce fut un nouvel échec. On retrouva la jeune fille au matin, gémissant de douleur, la jambe fracassée par une énorme pierre. Les villageois n'osèrent plus conseiller à la jeune fille quoi que ce soit. Elle décida, quelques mois plus tard, de tenter une nouvelle ascension, mais sans user de subterfuge cette fois-ci. Elle partit donc par une belle matinée de printemps, seule, portant sa petite robe de lainage. Elle commença à monter, silencieuse. Puis petit à petit, des mots, puis des phrases se mirent à sortir de sa bouche. Elle, qui ne s'était jamais plainte, commença cette complainte. « J'ai perdu mon père, comme je suis malheureuse. J'ai perdu ma mère, comme je me sens seule. J'ai perdu mes sœurs, quelle douleur, quelle douleur. Je souffre, qui souffre autant que moi ?» Tout le temps que dura la montée, elle reprit encore et encore cette complainte. « J'ai perdu mon père, comme je suis malheureuse. J'ai perdu ma mère, comme je me sens seule. J'ai perdu mes sœurs, quelle douleur, je souffre. Qui souffre autant que moi ?» Le comte, ayant aperçu la silhouette de la jeune fille, s'était emparé d'une énorme pierre. Les mots, pourtant dits à voix basse, lui parvinrent. Il écouta cette complainte qui, petit à petit, se rapprochait de lui, touchait sa propre souffrance. La pierre tomba de sa main, et il suivit Armide qui se dirigeait vers la source. On ne sut jamais ce qui se passa, on ne revit jamais ni le comte, ni Armide. Tout ce qu'on sait, c'est que le cosse autour du château, de nu qu'il était, se couvrit ce printemps-là d'orchidées. Les villageois appelèrent cette colline la colline du roc Armide, que l'on connaît maintenant sous le nom de roc d'Aimier. Cet endroit du cosse est couvert tous les printemps de centaines d'orchidées.
Thank you. Quercy, ma terre dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire.
Amouroux des amourouses. C'était au temps où les bêtes parlaient, où les coteaux du roc des Miers dévalaient, couverts de vignes, jusqu'au petit village de Saint-Antonin, au carrefour du Quercy et du Rouergue. À Foune des Piaux, au bord de la rivière Aveyron, la famille Bosque vivait chichement. Le père, surnommé Espérance, avait trois filles, Marinette, Marion et Émilie. Le père partait chaque matin, solidement chaussé, porter les missives de la malle-poste sur les chemins des environs, tandis que les trois jeunes filles vaquaient aux besoins de la maisonnette. Marinette, l'aînée de l'Espérance, était douce, raisonnable et réfléchie, n'entreprenant rien sans avoir pesé le pour et le contre, mesurant, pesant, qu'il s'agisse de mettre le canard à la graisse ou de saler la saucisse de porc. Marion, la puinée, c'était la tête de linotte, sautant, virevoltant, toujours prête à suivre et poursuivre le papillon, l'écureuil ou la coccinelle. Émilie, la benjamine, une frêle rousse, maladive, portait le poids de l'absence de sa mère, morte en couche à sa naissance. Un jour, un triste jour de février, elle ne put se lever, pas même pour manger la soupe de fèves qu'elle adorait et que Marinette savait si bien préparer. Toute la famille comprit que l'heure était grave et qu'il fallait coûte que coûte trouver un remède. Espérance, qui rencontrait chaque jour nombre de ses concitoyens, énumérait les symptômes, prenait conseil, alla même jusqu'à interroger le médecin du village. Rien, rien, rien pour soulager sa pauvrette, sa roussette, sa Miliette. Un petit matin, début mars, Espérance, portant une missive au sieur du roc de Bachoul, vit sortir de son terrier le museau blanc, rayé de noir et la puissante carrure d'un blaireau. « Espérance, je sais ce qui peut sauver ta roussette, ta joliette, ta Miliette. Il te faut trouver le bourgeon du tamier bleu, pas celui du vulgaire en respunchu, mais celui du rare et superbe tamier bleu. Tu le feras infuser 10 minutes dans un bol d'eau bouillante, de l'eau de la source de Salette près de chez toi. » De retour à Foune des Piaux, on tint conseil de famille. Il était aisé d'aller puiser l'eau à Salette, à quelques centaines de mètres de la maison, l'eau si précieuse, et de la faire bouillir dans la vaste cheminée près de laquelle on avait approché la couche d'Émilie. Mais le bourgeon du tamier bleu, où le trouver? Le blaireau n'en avait rien dit, le savait-il lui-même? Dès le lendemain matin, les deux sœurs se mirent en quête du tamier bleu et de son précieux bourgeon. Marinette tira avec précaution le volet de l'unique fenêtre de la masure. Une pipistrelle au pelage roussâtre dormait là, à l'abri de la lumière et des intempéries. « Oh, excuse-moi, pipistrelle, de te déranger, mais lors de tes vols nocturnes, as-tu aperçu le bourgeon du tamier bleu ?»« Non, petite. Mais pas loin d'ici, à Florac, tu trouveras Amer, le Gé, qui surveille si bien son territoire. Si le tamier bleu s'y trouve, sûr, il saura te le montrer. » Et voilà notre Marinette sur le chemin de Florac. Pendant ce temps, Marion, la puinée, la tête de linotte, saute le talus qui sépare la maison de la route, court droit devant elle en direction de Saint-Antonin. Un remède pareil, ça ne doit se trouver que très loin d'ici, c'est sûr. Elle traverse la ville, sautant, courant toujours, sa belle tresse blonde bondissant sur ses épaules. À peine entend-elle le grillon tout jeune qui sort de son trou d'hiver près du fournil du boulanger. « Cri-cri, je sais que tu cherches le bourgeon du tamier bleu, cri-cri. » « J'ignore où il se trouve, mais si tu rencontres une coccinelle à 5 points, cri-cri, arrête-toi et fais-lui part de ta recherche. » Coccinelle, c'est tout ce qu'elle a entendu. Et Marion chante « Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu, coccinelle, demoiselle, vole jusqu'aux cieux. » Essoufflée, la voilà déjà à Cadenne, à Gouverne, en passant par Pouchomard. C'est aux granges qu'elle aperçoit sur une toute jeune feuille d'acacia une jolie coccinelle à 5 points. 5 points noirs sur le rigide habit rouge. Et Marion chante « Petit point blanc, elle attend, petit point rouge, elle bouge, petit point noir, non, pas au revoir. Gentille coccinelle, toi qui connais si bien les plantes, sauras-tu où trouver le bourgeon du tamier bleu ?» Nous voilà déjà en mars, il ne devrait pas tarder à pointer son nez sur un coteau exposé plein sud. Je sais par ma mère qui a beaucoup voyagé que c'est vers Beauduf. Mais c'est peut-être trop venteux, ou vers paradis, mais c'est peut-être trop à l'ombre. Je sais qu'il y a un endroit plein sud, assez haut, mais pas trop, à l'abri des vents du nord et d'est. Là, c'est probable, pousse le tamier bleu. Mais où précisément, s'impatiente Marion ? J'y suis, c'est aux Amourouses. Si tu veux, on s'y retrouve dans 2 jours. Pendant ce temps, sa grande sœur Marinette est arrivée tranquillement à Florac, a trouvé amer le jet, savourant les glands qu'il a cachés avant l'hiver, sous la souche d'un chêne. « Dis-moi, amer, toi qui connais si bien ton territoire, ne saurais-tu pas où pointe le bourgeon du tamier bleu? Je dois absolument en trouver un pour guérir ma petite sœur Émilie. » Marinette, je crois pouvoir t'aider. Je ne vois qu'un seul endroit où peut pousser le tamier bleu. C'est aux Amourouses, là-haut. Si tu veux, on s'y retrouve dans 2 jours. 2 jours plus tard, Marinette est au rendez-vous auprès d'Amère Leger. Elle n'est pas étonnée de retrouver là sa cadette, Marion, qui admire une superbe coccinelle à 5 points posée au bout de son index gauche. Et tout le monde est d'accord, c'est là que se trouve la plante miraculeuse. C'est aussi là que vit le jeune fermier Amouroux, qui a donné son nom à sa petite maisonnette, au maigre pâturage qui l'entoure, aux terrasses bordées de murets où poussent la vigne, l'amandier et même un jeune olivier.